C'est notre troisième session. On a fait une introduction, après on a vu la Genèse, les chapitres 1 à 3. Et ce soir, nous nous proposons de faire les chapitres 4 à 11. Alors, encore une fois, on n'a pas le temps de tout voir en détail. J'essaye de parler des choses qui sont intéressantes ou marquantes. À la fin de la cassette d'une heure, il restera une dizaine de minutes avant 9h30. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser à ce moment-là si j'y réponds pas pendant le texte, pendant l'étude du texte. La Genèse est donc le livre des commencements. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a fait remarquer que il n'est pas question de s'attaquer à prouver l'existence de Dieu. Dieu va de soi lorsqu'on regarde le monde qui nous entoure. C'est ce que nous dit Paul aussi dans les livres aux Romains. Dans les trois premiers chapitres, on a vu donc la création de l'univers, le péché d'Adam et Ève qui ont obéi à Satan plutôt qu'à Dieu. Nous avons au passage remarqué comment Satan attaque la parole de Dieu. Il sème le doute, il déforme, et puis il y a des fois où il contredit carrément ce que dit la parole de Dieu. S'il venait en disant « non, c'est pas vrai, Dieu n'existe pas », on dirait « arrière, Satan ». Mais il va dire « oh, tu crois que Dieu veut vraiment t'empêcher d'avoir du plaisir et d'obéir à la lettre, à ce qu'il dit dans sa parole ?» Et donc, en semant le doute, il va nous préparer à rejeter la parole de Dieu, à la déformer. Il s'attaque souvent au caractère de Dieu en nous disant que Dieu nous aime pas, Dieu n'est pas un Dieu juste, Dieu n'est pas un être d'amour. Et lui nous promet, au contraire, si nous désobéissons à Dieu, des joies, des bénédictions, des bénéfices. Et c'est vrai que si le péché n'avait pas un attrait, une promesse de plaisir, la plupart du temps, on arriverait à y résister. Mais il y a toujours ce plaisir immédiat que donne le péché qui fait qu'on est prêt à succomber à la tentation. L'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean 2, 15, 17, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » Quand il dit ça, il parle du système de valeurs que nous trouvons dans le monde qui rejette Dieu. Il ne s'agit pas de rejeter les gens qui composent le monde, les êtres humains, encore moins la planète, la terre, le monde, non. Le monde, c'est le système de valeurs qui prime sur la surface de notre terre, justement, et qui rejette Dieu, qui le met de côté. Et il disait, n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Convoitise de la chair, on pourrait dire que c'est la satisfaction des sens. La convoitise des yeux, c'est ce qui satisfait notre sens de beauté, d'esthétisme. Et l'orgueil de la vie, c'est la satisfaction intellectuelle, la satisfaction orgueilleuse de dominer les autres, d'être plus fort que les autres. Et ces choses-là, nous avons à les combattre, non seulement comme Ève, comme Jésus l'a fait, quand il a été tenté dans le désert, on peut voir que là aussi, eux-mêmes ont été soumis à la tentation. Satan tentait le Messie avec du pain, tentation des sens. Il lui montrait les royaumes. C'était pour faire appel à la vue, à la convoitise des yeux. Et puis il lui disait, si tu es vraiment le Fils de Dieu, montre-le en te jetant du haut du pinacle. Et tu vas être Dieu, donc tu es Dieu, donc tu vas être récupéré. Et à chaque fois, Jésus répondait en citant la parole, Ne tente pas Dieu, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu, etc. » Ça, c'était donc comment le péché est arrivé. Ève a vu le fruit. Il était beau à voir, cet arbre. Et puis, ça, c'était la convoitise des yeux. Elle a eu la convoitise de la chair d'en manger, parce que le diable lui avait dit qu'en fait, si elle en mangeait, elle serait aussi forte que Dieu. On a parlé des conséquences du péché, de la malédiction de Dieu sur le serpent. L'Apocalypse, à l'autre extrémité de la Bible, nous explique que c'est le serpent ancien, le diable et Satan, c'est la même chose. Il y a cette malédiction donc qui a été prononcée dans Genèse 3:15 sur la descendance du serpent qui allait mordre la descendance de la femme, mais la descendance de la femme allait écraser la tête du serpent. Et on a expliqué que ça représentait la morsure du serpent, c'était la croix où le Fils de Dieu, le Fils de la femme était blessé mortellement, mais la résurrection c'était l'écrasement de la tête de Satan. Donc dès le départ, dès la chute, on voyait la promesse d'un rédempteur, d'une solution au problème de l'homme. On a remarqué aussi que en donnant, l'homme s'était habillé de, lorsqu'ils avaient péché, leurs yeux s'étaient ouverts à la connaissance du bien et du mal, et ils avaient vu en fait leur nudité, ils étaient gênés, ils s'étaient couverts de feuilles de figuier. On me dit, j'ai jamais essayé, que les feuilles de figuier piquent. Et donc Dieu, a donné à l'homme des peaux d'animaux pour les couvrir. Et ça montre que Dieu doit faire couler le sang de façon prophétique pour indiquer que c'est le sacrifice de Jésus sur la croix qui va nous revêtir de justice, qui est le seul vêtement acceptable. Et on expliquait il y a deux semaines, dimanche, en étudiant Romains, que la justice qui nous vient de Jésus, on ne peut pas la mériter, on ne peut pas l'améliorer, on ne peut que la recevoir. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'améliorer ? Parce qu'elle est parfaite. C'est la justice de Jésus. C'est le grand échange de 2 Corinthiens 5, on lui donne nos péchés, il nous donne sa justice. Et cette justice, une fois qu'on en est revêtu, aux yeux du Père, on est aussi pur, aussi propre que Jésus lui-même, dans son état de non-pécheur. Et en chassant l'homme du jardin, Dieu évite qu'il ne mange de l'arbre de vie dans un état de péché, ce qui pourrait vouloir dire qu'il serait à jamais séparé de Dieu. Après cette terrible chute, ce péché originel, comme il est quelquefois appelé, encore une fois, la Bible n'en parle pas en termes symboliques pour dire que c'est un symbole du bien et du mal dans la nature humaine. La Bible en parle vraiment comme un fait qui s'est déroulé historiquement. Il y a eu un jour Adam et Ève dans un jardin qui ont écouté Satan et qui ont désobéi à Dieu. Et depuis ce moment-là, tout le péché, tous les malheurs, toute la misère du monde résulte de cet acte de désobéissance à Dieu. On va voir que, si vous vous souvenez, Dieu avait donné du travail à l'homme avant le péché originel. Ça, c'est pour ceux qui ont du mal à se lever lundi matin en disant « Oui, ça c'est la faute d'Adam et Ève ». Non, il y a beaucoup de joie dans le travail, lorsqu'on est guidé par Dieu. Et même dans un travail ingrat, on doit pouvoir trouver de la joie à créer, à avoir des rapports avec d'autres personnes, avoir une utilité. Et on a toujours le choix de rejeter le boulot qu'on fait ou d'essayer de l'embrasser. Et ça change tout. Si on essaye de l'embrasser, même si c'est un travail qu'on n'aime pas particulièrement, mais d'essayer de faire de son mieux, d'essayer d'être passionné, d'essayer d'améliorer la situation, ça peut changer votre perspective du tout au tout et rendre la vie beaucoup plus passionnante. Donc le travail est venu avant la chute. Par contre, la première famille, on la voit après la chute. Ça ne veut pas dire que la famille n'est pas quelque chose que Dieu ne veut pas bénir, mais c'est après avoir été chassé du jardin que Caïn est né. On peut regarder un peu, On va parcourir ensemble, si vous avez une Bible, Genèse 4. C'est après avoir été chassé du jardin que l'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit : « J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. » Alors ça, c'est la connaissance, le beau terme biblique qui veut dire avoir des relations sexuelles qui permettent à la femme de concevoir un enfant. Elle accoucha non seulement de Caïn, mais aussi de son frère Abel. On va remarquer que la Bible parle de généalogie, et si on marquait ces généalogies sur un tableau, sur un document, un papier, on verrait que souvent, elle commence et puis la lignée d'un personnage n'est pas suivie jusqu'au bout. Et en fait, c'est parce que la seule généalogie qui nous intéresse vraiment, c'est celle qui mène au Messie, à Jésus-Christ. Les autres généalogies nous donnent un peu un contexte, mais on va voir que c'est seulement la généalogie qui mène à Jésus qui est explicitée complètement. La Genèse 4 va parler de la descendance d'Adam et Ève par leur fils Caïn. La Genèse 5 va parler de la descendance d'Adam et Ève par leur troisième enfant, ou du moins celui qui est appelé Seth. S-E-T-H. Encore une fois aussi, pour cette raison, la Bible ne cite pas tous les enfants d'Adam et Ève, par exemple. Souvent, c'est une question : comment Caïn a-t-il trouvé une femme ? Il faut se rappeler qu'à l'époque, avant le déluge, la longévité des premiers hommes était de très longue, de l'ordre de 800-900 ans, et qu'ils avaient de nombreux enfants, de nombreux descendants, et donc la population de la terre augmentait petit à petit, mais il y avait déjà des sœurs et des frères pour Adam, pour Caïn et Seth. Caïn, ça veut dire acquis ou procuré, et on peut penser que après la promesse que Dieu avait faite à Ève d'avoir que sa descendance écraserait le serpent, elle a pensé que le premier enfant c'était déjà Caïn. Caïn, c'était déjà cet enfant qui allait écraser Satan. Elle l'appelait pas Satan, mais c'était le serpent. Caïn, en fait, c'était un cultivateur, un fermier. Son nom signifie acquis, donné à quelqu'un, procuré. Et puis son frère Abel. Son nom, c'est pas significatif, mais ça peut vouloir dire vanité ou vapeur, quelque chose de très temporaire. Lui, c'était un berger, un éleveur. Et il est dit qu'ils ont offert des sacrifices, des offrandes à l'Éternel, verset 3 du chapitre 4, et que Abel, lui, a offert un agneau, ou plusieurs agneaux, des agneaux de son troupeau. Caïn, lui, avait offert des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Et là, il est dit que, verset 5, que Dieu, l'Éternel, ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Par contre, il avait accepté l'offrande d'Abel. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si un sacrifice est accepté ou non ? À l'époque, on le voit plus dans plusieurs autres passages bibliques de l'Ancien Testament, il y avait le feu qui descendait du ciel et qui consumait complètement l'animal qui était offert ou l'offrande qui était offerte. On peut dire aussi que Abel, en offrant un agneau, préfigure le sacrifice de l'agneau de Dieu que nous avons chanté tout à l'heure, là en canon, c'était très beau. Merci Zoé pour avoir mené le canon. Et alors que Caïn, lui, il offrait le fruit de son labeur. Et ça nous rappelle un peu que nos œuvres ne peuvent pas satisfaire Dieu. C'est par la foi qu'on peut lui plaire. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quel est le grand passage de la foi dans la Bible ? Moi, dans le Nouveau Testament, on va vous aider. Un livre, Hébreux, quel chapitre ? 11, oui. Et dans le Hébreux 11, on va y venir plusieurs fois ce soir, verset 4, il est dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, par la foi, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. » Donc on voit déjà que Abel avait présenté un sacrifice avec foi. Peut-être qu'en offrant cet agneau, il avait déjà une connaissance d'un Messie à venir qui allait être l'agneau de Dieu, c'est pas précisé, on peut pas l'affirmer. Mais Hébreux nous dit que cette offrande avait été faite par la foi, alors que Caïn, lui, n'avait pas présenté cette offrande de la même façon. Et ça a irrité Caïn, son visage fut abattu, et il a fait ce que beaucoup d'hommes ont fait depuis, lorsqu'ils sont jaloux de quelqu'un, ils cherchent à tuer ou à faire du mal. Et Caïn, il est dit qu'il tua son frère, chapitre 4, verset 8. C'est le premier meurtre de l'histoire. On a dit que la Genèse était le livre des commencements. Il y a des bons commencements, il y en a d'autres qui sont moins encourageants. Il n'est pas détruit par Dieu, comme on pourrait le penser. Vous savez, cette fameuse phrase de l'Éternel qui dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn qui répond, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère, moi? Est-ce que je dois le surveiller tout le temps ?» Et Dieu lui demande, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. » Alors bien sûr, Dieu peut poser des questions, mais en général, ce n'est pas parce qu'il cherche de l'information, c'est parce qu'il veut susciter une confession. Et sans cette confession, on ne peut pas être réconcilié à Dieu. Et la meilleure chose à faire lorsqu'on a commis un péché, lorsqu'on a commis une faute contre Dieu, contre nos frères, c'est de l'appeler telle qu'elle est. Confesser, ça veut dire la même chose qu'eux, en grec, et ça veut dire, sous-entendu, dire la même chose que Dieu quant à tel événement, telle chose que j'ai fait dans ma vie ou que je n'ai pas faite. Et c'est pour ça que Dieu aimerait bien que Caïn lui confesse son crime. Mais il lui dit, maintenant tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. Et Caïn répond, le poids de ma faute est trop grand pour être supporté. Il se plaint. Il n'y a pas de repentance. Ça aussi, c'est quelque chose à éviter lorsqu'on a des épreuves. Si c'est le Seigneur qui nous corrige, le discerner et lui demander pardon, plutôt que de dire, oh là là, j'en ai marre de tous les événements qui m'arrivent ou tout ce qui me tombe sur la tête. Pouvoir lui dire, Seigneur, je te demande pardon, je veux ton aide pour redémarrer. Le Seigneur nous aide toujours à redémarrer, c'est ça qui est merveilleux. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera cette fois. L'Éternel mit un signe, ce Caïn, pour ceux qui ne le trouvaient, ne le frappe pas. Donc même dans sa colère ou son jugement, Dieu protège Caïn. Et à partir du verset 17, on voit la descendance de Caïn. Donc Caïn, verset 17, connut sa femme, donc sans doute une sœur de Caïn. On peut supposer que on pouvait avoir à l'époque des enfants entre proches parents sans qu'il y ait des problèmes de génétique, sachant qu'on était tout près de la source des premiers hommes. Mais cette femme dont on ne connaît pas le nom accouche de Hénoc. Il y a une ville qui est bâtie après lui. On voit que verset 19, le début de la bigamie. Lémec, il y en avait un seul. Lémec, c'est le nom du descendant de Métouchaël, qui a deux femmes, l'une qui s'appelle Ada et la seconde Sida. On voit la société qui devient de plus en plus sophistiquée, puisqu'on a d'un côté Yubal, qui est l'ancêtre des musiciens, et Tubal-Caïn, qui est l'ancêtre des forgerons, de ceux qui travaillent le fer. Cette société qui commence à s'adonner aux arts et à l'industrie ou à l'artisanat, en fait, on voit qu'elle a déjà rejeté Dieu. Les mecs se vantent d'avoir tué quelqu'un. Et puis, Adam et Ève ont un autre enfant, c'est Seth, et on va voir sa descendance à partir du chapitre 5. Le fils de Seth s'appelle Enoch. Et verset 26, il est dit: c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et ça, c'est toujours un grand moment dans votre vie lorsque vous commencez à vous tourner vers Dieu. Lorsque vous devenez chrétien, lorsque vous commencez à prier à Dieu s'il existe. Je sais que dans ma vie, ça a été un grand tournant. Je suis sûr que dans la vôtre, ça va l'être, si ça ne l'est pas déjà. Invoquer l'Éternel, lui parler, faire appel à lui dans toutes les épreuves de la vie, c'est une bonne chose. Certains y voient de la faiblesse. Lorsqu'on dit prier, c'est bon. La foi, c'est une béquille. Et il est bon de savoir que chacun cherche de l'aide, que ce soit l'alcool, la drogue, la recherche du pouvoir, les relations, la force physique. Nous sommes tous faibles et nous cherchons tous une force en dehors de nous. Et seul l'Éternel peut être notre force. On l'a chanté aussi ce soir. Petite devinette, quel est l'homme le plus âgé, l'homme qui est le vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité? Oui? Mathusalem, combien d'années il a vécu? 969 ans. Ça devait faire des sacrés gâteaux d'anniversaire à la fin. Mais c'est vrai, et pourtant, il est mort avant son père. Comment cela est-il possible? C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps et il est mort avant son père. C'est parce qu'en fait, son père, Enoch, n'est pas mort. Il a, verset 24, il est dit qu'il marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Et ça, entre parenthèses, certains y voient une image de l'Église qui est enlevée avant la grande tribulation. Le fait que Dieu peut prendre des êtres pour aller avec lui. Et Hébreu, encore le célèbre chapitre de la foi, nous dit: c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Donc ça, c'est un beau témoignage, un beau récit d'un être qui avait une grande communion avec Dieu, au point que Dieu lui a dit « Viens avec moi » et il l'a enlevé. Le chapitre 5, on en a souvent parlé, donne beaucoup de détails et de dates. Et si vous voyez le format qui est répété, c'est X âgé de tant d'années engendra Y. X vécu après la naissance de Y pour un autre nombre d'années. Il engendra des fils et des filles. Et la durée totale de sa vie fut la somme de ces deux chiffres. Puis il mourut. Et ça, encore une fois, on voit que l'implacabilité de la mort, comme Dieu l'avait promise à Adam et Ève, le jour où ils allaient manger de désobéir en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort allait entrer dans la race humaine. Et on va en parler avec Romains 5 ce week-end. On a déjà parlé, je crois, la première fois de l'intérêt de la généalogie d'Adam en passant par Seth. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à lire avec passion, les généalogies. Un tel engendra un tel qui engendra un tel qui en... Et pourtant, là, quand on regarde le sens des noms hébreux, on voit qu'en fait, il y a déjà le message de l'Évangile qui est inscrit dans le chapitre 5 de la Genèse. Alors je vous rappelle, Adam, ça veut dire homme. Seth, c'est réservé ou donné. Enoch, ça c'est, c'était pas le père de Mathusalem, c'était un autre Enoch, ça veut dire mortel. Au verset 9, il est question de Kénan. Kénan, c'est le chagrin. Ça devait être un nom difficile à porter. Hé, chagrin, tu viens sur mon équipe? Alors lui, il a nommé son fils Mahalaleel, qui veut dire le Dieu béni. 5:12, Dieu béni. Ensuite, Yéred, ça vient du mot qui veut dire venir d'en haut. Verset 18, c'est le Enoch dont on a parlé, qui marcha avec Dieu et qui fut enlevé par Dieu. Ça veut dire enseignant. Son fils, Mathusalem, ça veut dire sa mort amènera. Point de suspension. Et donc les gens se faisaient du souci chaque fois qu'il était malade, chaque fois qu'il avait une grippe, parce qu'on savait que sa mort devait amener quelque chose de pas très bon. Lémec, c'est un autre Lémec que celui qui avait instauré la bigamie. Ça veut dire ceux qui désespèrent, c'est le même mot, la même racine que le mot lamentation. Vous savez qu'en hébreu, ce qui caractérise un mot, c'est pas tant la conjugaison que la racine à trois lettres, à trois consonantes. Et donc Lémec, LMK, c'est cette racine qui veut donc dire lamentation, chagrin, désespoir. Et puis Noé, son nom veut dire repos, consolation. Et donc lorsqu'on met tous ces noms, cette série de généalogies, on a le message qui dit: à l'homme est réservé un chagrin mortel, mais le Dieu béni viendra d'en haut, enseignant que sa mort amènera à ceux qui désespèrent repos et consolation. C'est une première annonce de l'Évangile. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas monnaie courante. Peu de personnes sont au courant de cette généalogie, de son sens. C'est un dénommé Chuck Missler qui se passionne pour la Bible, qui a trouvé ça en étudiant la Bible. Et ça doit nous encourager que chacun de notre côté, nous pouvons puiser des choses nouvelles dans la Bible, pas des choses bizarres et différentes de ce que la Bible enseigne, mais là c'est une confirmation du message, de tout le message de l'Évangile, de tout le Nouveau Testament. Et ça doit nous encourager à étudier par nous-mêmes la Bible. Le Seigneur peut vous faire des révélations que personne n'a encore vraiment ressenties. Là, le but, c'est pas de chercher des choses nouvelles, c'est de connaître la parole de Dieu. Deutéronome 29 nous dit que les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées appartiennent aux hommes. Autrement dit, appliquez-vous à mettre en application ce que vous comprenez de la Bible, ce qui est connu, ce qu'on peut trouver facilement. Ce serait déjà merveilleux pour moi déjà. Chapitre 6 parle de la perversion du genre humain. Et il est dit: lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce furent parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors la question, c'est: qui sont ces fils de Dieu qui épousent les filles des hommes? En gros, il y a trois options. Il y en a qui disent que ce sont simplement des riches fils de princes qui épousent des filles du peuple. Mais c'est pas vraiment en accord avec la langue hébraïque, et c'est peu probable. D'autres pensent qu'en fait il y avait chapitre 5 qui parlait de la descendance de Caïn de Adam et Ève par Caïn, chapitre 6 la descendance par Seth. Et donc certains pensent que les fils de Dieu, c'est les descendants de Seth. Et alors que Caïn, c'est les descendants du péché, et qu'il y aurait eu des mariages entre ces deux lignées, que les fils des hommes auraient épousé les fils de Dieu, c'est-à-dire les descendants de Seth, auraient épousé des filles de la race de la descendance de Caïn. Mais c'est pas non plus l'option la plus populaire. Certains pensent, et je crois que pour l'instant c'est mon opinion aussi, que ce sont des anges, les fils de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, l'expression fils de Dieu désigne des êtres angéliques. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un passage célèbre dans Marc 12, 25 qui dit que les hommes, quand ils ressusciteront d'entre les morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari. Ils seront comme les anges dans les cieux. Alors c'est vrai que les anges, étant des êtres éternels, n'ont pas besoin de se reproduire, mais il n'est pas nécessairement dit qu'ils sont asexués. Et certains pensent qu'en fait ce sont des anges, des êtres angéliques qui ont eu des relations contre nature avec des femmes humaines, des femmes sur terre. Et verset 4 nous dit: c'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont là les héros des temps anciens. Et ça c'est intéressant parce que c'est vrai dans la mythologie antique, notamment la mythologie grecque ou la mythologie romaine, il y a des surhommes, il y a des Hercules, c'est pas vraiment des dieux, mais c'est des... Alors est-ce que ce serait une confirmation de ces récits? C'est possible. Le mot qui est traduit géant, c'est le mot hébreu néphilim, et ce mot veut dire ceux qui ont chuté, ceux qui sont tombés. Et ces géants, on en parle beaucoup dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez, lorsque les 12 espions étaient partis en terre promise, ils avaient vu des géants dans la terre promise. Et il y en avait 10 qui disaient: on ne peut rien faire contre eux, nous à côté d'eux on est comme des sauterelles. Mais la Bible dit qu'on ne peut, on doit tout juger sur le témoignage d'au moins 2 ou 3 témoins. Et on peut prendre comme témoin le Nouveau Testament. Jude 6, verset 6, il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude, dit: les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. Et certains pensent qu'ils ont quitté leur propre demeure, ce serait peut-être leur corps d'ange dans les cieux, et qu'ils ont adopté un corps leur permettant d'avoir des relations avec des femmes humaines. 2 Pierre 2,4 nous dit: Dieu dit que, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés et précipités dans les abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du jugement. Donc il y a dans plusieurs passages, il est dit que les femmes doivent couvrir leurs cheveux à cause des anges. Certains pensent que c'est une référence aussi à cet épisode antique. Mais il y a toujours ce passage sur les fils de Dieu, les anges qui ont eu des rapports avec les filles des hommes. Alors certains disent que les anges auraient dû être punis. On a vu qu'ils sont gardés dans les abîmes de ténèbres en vue du jugement. Et verset 3 de ce chapitre 6 nous dit: l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. La durée de vie qui était de 900-800 ans passe maintenant à 120 ans. Et on peut penser que c'est peut-être avec le déluge, on va y revenir, que Dieu a utilisé ça pour brutalement faire chuter la durée de vie des hommes. Mais 120 ans, malgré les progrès de la science, ça reste un peu une limite absolue. Jeanne Calment, la doyenne française, il y a quelques années, qui est décédée, je crois qu'elle avait dépassé 120 ans, mais pas de beaucoup, 121 ou... Et on est ainsi fait maintenant que 120 ans, c'est vraiment pousser le bouchon au maximum. 120 ans, et il est dit que l'Éternel, verset 5 du chapitre 6, c'est important. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Deux, trois choses ici. Le fait que, livré à lui-même, sans Dieu, le constat, c'est que l'homme a un cœur mauvais. Et il conçoit que des pensées mauvaises. Quelque part, c'est dur à recevoir, mais c'est encore le jugement du psalmiste, le jugement que Paul reprend en disant « Il n'y en a pas un seul qui cherche Dieu, il n'y en a pas un seul qui cherche à faire le bien. » Et même les œuvres caritatives, souvent, on peut leur trouver des raisons moins nobles que le pur altruisme. Des fois, c'est pour enlever cette misère qui est insupportable à ceux qui vont mieux que ceux qui sont dans la misère. C'est pour se donner bonne conscience. Encore une fois, il ne faut pas la rejeter en tant que telle. On peut remercier Dieu qu'elle est présente. Mais Dieu a dit que les meilleures actions de l'homme sont comme des torchons souillés aux yeux de Dieu. Ça, c'est dur à admettre, mais c'est le verdict de Dieu, c'est le verdict de la Bible. Et puis, on a l'impression que Dieu a fait l'homme, là, puis il le voit qui évolue mal et qui dit « Je regrette de l'avoir fait ». Et là, il faut se garder parce que Dieu ne change pas d'avis. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas homme pour changer, nous dit le livre des Nombres. Et c'est ce qu'on appelle ici un anthropomorphisme, c'est-à-dire une façon de parler pour les hommes. C'est-à-dire que si un homme veut exprimer le dégoût qu'il aurait devant la création de Dieu, il dirait qu'il regrette de les avoir faits. Ce serait un peu la façon dont Dieu s'exprimerait s'il était un homme. Mais Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Il savait que ça allait se passer comme ça. Et il a un homme qui a obtenu sa faveur. Noé obtint la faveur de l'Éternel. Le mot de faveur, on peut expliquer en fait, ça veut dire qu'il trouve grâce aux yeux de Dieu. Et la seule chose qu'on puisse espérer, c'est trouver grâce auprès de Dieu. On ne peut pas l'impressionner par nos bonnes œuvres, mais il est celui qui nous donne sa grâce en abondance, si nous seulement nous voulons la recevoir par la main de la foi et la recevoir pour notre vie. Dieu a vu cet homme, Noé, et il lui donne sa grâce. Cette petite phrase, « Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel », c'est un peu un de ces « mais » puissants de la Bible, un peu comme dans Romains 3, lorsqu'on avait vu la descente aux enfers avec la description du péché de l'homme, où il était dit que nul ne peut être justifié, et puis verset 21 du chapitre 3, « Mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu », et c'est là qu'il introduit le fait que par la grâce de Dieu, nous pouvons recevoir la justice de Jésus et être déclarés justes par Dieu. Ce « mais » nous montre qu'en fait, une seule personne, Noé, obtint la faveur de l'Éternel. Vous connaissez l'illustration un peu banale et pourtant très vraie que dans l'obscurité, si on a éteigné les lumières de cette salle, qu'on ferme des rideaux là pour pas qu'il y ait de lumière qui pénètre dans la salle, une seule petite allumette donnerait de la lumière déjà. Et ne négligez jamais ce que Dieu peut faire avec une seule personne. Et cette personne, ça peut être vous, ça peut être moi. Dieu a fait des grands réveils dans l'histoire. Il a, par exemple, aboli l'esclavage en Angleterre, ça a suivi aux États-Unis et en France, par une seule personne, Wilberforce. Et dans toute l'histoire de l'Église, on voit que si une seule personne cherche à plaire à Dieu, à vivre selon ses voies, Dieu peut les utiliser de façon très, très spectaculaire, et on ne cherche pas encore une fois le spectaculaire, on veut simplement faire la volonté de Dieu. Mais peut-être vous êtes seul au lycée à être chrétien, vous êtes seul au travail à être chrétien, vous êtes seul dans votre communauté ethnique à être chrétien pour le moment, que ça vous donne jamais l'impression que vous pouvez rien faire. Devant Dieu, avec sa puissance, une seule personne avec Dieu, c'est une majorité puissante. Si Dieu est avec vous, rien ne peut l'arrêter. Mais il cherche toujours à travailler par les hommes, par un homme au moins, Et cet homme-là, c'était Noé qui nous a, qui a préservé la race humaine. Alors, tout le chapitre 9 à 18, c'est l'histoire de Noé, du fameux arche de Noé. Là encore, dans la culture contemporaine, on pense que Noé, c'est une légende. Mais Jésus a parlé de Noé de façon très historique. Dans Luc 17, 25 ou Matthieu 24, 38, lorsque ses disciples lui demandaient quel serait le signe de son retour, il leur disait dans Matthieu 24, 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure de mon retour, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. » Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est intéressant de savoir, de réaliser que pour connaître le futur de l'humanité, il faut étudier l'histoire de l'humanité telle que la Bible nous la décrit. Et c'est cet aspect du fait que Jésus utilise la situation sociale avant le déluge, avant que Noé entre dans l'arche. C'est ça qui devrait retenir notre attention. C'est vrai qu'on aime bien voir les dessins, imaginer l'arche, comment il était fabriqué. Il y a des détails très intéressants. Il y a des proportions, verset 15 du chapitre 6. C'est donné en coudées, mais si on convertit à peu près en mètres, on avait un énorme bateau à l'époque de 150 mètres par 25 mètres de large sur 15 mètres de haut, qui est une forme très navigable. Il y a d'autres récits d'un déluge, notamment au Moyen-Orient, dans l'épisode de l'épopée de Gilgamesh, où l'arche, il est question d'un arche aussi, mais l'arche est décrit comme un cube. Et je pense que tous vous avez l'idée qu'un cube, ça ne doit pas être très stable, parce qu'il n'y a pas de sens de navigation. Au niveau de la capacité de l'arche à recevoir des animaux, un couple d'animaux, de tous les animaux, il faut savoir qu'avec ces dimensions et en envisageant plusieurs étages, trois étages, on arrive à une surface de plus de 11 000 mètres carrés. Alors 11 000 mètres carrés, c'est un peu moins que Carrefour Lingostière. Pour être pratique. Alors il faut imaginer une grande ménagerie à Carrefour Lingostière avec de la paille et des victuailles enfermées dans des coins. Mais en fait, quand on examine un peu le côté technique, la description biblique n'est pas du tout impossible à prendre telle quelle pour amener à la survie tous ces animaux et ces... Combien il y avait de personnes dans l'arche, d'hommes et de femmes? 7 ou 8? Quel est le nombre parfait? C'est 7, mais il y avait 8 personnes. Il y avait Noé et sa femme, ses trois enfants, Sem, Cham et Japhet, et leurs femmes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup de critiques disent qu'en fait ce récit de l'inondation, du déluge, est une légende. Et pour réfuter la véracité du déluge, ils disent qu'en fait on retrouve cette histoire dans toutes les mythologies. Et c'est justement parce qu'on retrouve cette histoire dans toutes les mythologies qu'on a la preuve qu'il s'agissait d'un déluge universel. Un déluge universel. Alors, les versets, chapitre 7, versets 6 à 16 nous décrivent un peu l'embarquement des animaux. Qui c'est qui a fait rentrer les animaux dans l'arche? C'est Dieu, hein, c'est pas Noé qui a dû chercher à courir après eux. Il y avait des couples de une paire d'animaux de toutes les espèces, sauf 7 couples pour les espèces qui n'étaient pas impures. Et On peut se demander comment ils pouvaient savoir quelles étaient les espèces qui n'étaient pas impures. Ça, parce que ça apparaît dans le Lévitique, sous la plume de Moïse. Mais on peut penser que c'était déjà quelque chose que Dieu avait déjà révélé. Il est aussi intéressant de se rappeler de la longévité des patriarches de l'Ancien Testament. Parce que quand on rapproche un peu les dates des différences, on s'aperçoit que Noé, j'ai pas exactement les noms là en tête, mais vous pouvez faire vous-même, vous pouvez avoir des récits de vive voix de choses qui s'étaient passées il y a 800 années. Et donc les récits à l'époque, c'était une tradition verbale avant l'écriture. L'écriture, on pense que peut-être c'était lorsque Dieu a fait un signe pour Caïn, mais on sait que Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Torah et que la science de linguistique a montré que les caractères cunéiformes dataient d'au moins cette époque-là, même plus tôt que 1500 ans avant Jésus-Christ. Il s'est produit des grands cataclysmes lors de ce déluge, lorsqu'il est dit, verset 11, non, pardon, verset 16, non, je n'ai plus. Donc il a plu pendant combien de temps? 40 jours. Et donc ils sont restés dans l'eau combien de temps? En fait, ils sont restés dans l'eau 371 jours. Juste un peu d'arithmétique là, si vous voulez noter. Mathusalem a eu Lémec quand il avait 187 ans. Lémec a eu Noé quand il avait 182 ans. Et puis le déluge est arrivé lorsque Noé avait 600 ans. Et si on ajoute 187, donc à partir de la naissance de Mathusalem pour aller jusqu'à Lémec, c'est 187 ans. Pour aller de Lémec à Noé, c'est 182. Pour aller de Noé au déluge, c'est 600 ans. 187 plus 182 plus 600, c'est 969. C'est l'âge de Mathusalem, qui nous dit que peut-être que Mathusalem a été emporté par le déluge ou que sa mort a juste précédé le déluge. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, ces chiffres, ces précisions, c'est pas là par hasard. On peut corroborer le récit biblique de différentes façons. Et puis, l'eau donc s'est accumulée. Alors c'est là que l'on pense qu'il y a eu la rupture d'une ceinture qui entourait la terre, une ceinture d'eau qui assurait justement un climat tempéré sur toute la terre. On a retrouvé des mammouths gelés, des mammouths gelés en Alaska ou dans Sibérie, qui avaient à l'intérieur de leur système digestif des plantes tropicales. Et en fait, on avait une espèce de grande serre et qui protégeait aussi les hommes des rayonnements cosmiques. Et le fait que les eaux du haut se sont répandues, ainsi que les eaux du bas, montrerait que cette protection de l'homme qui lui permettait de vivre à un âge très avancé. Maintenant, les radiations cosmiques avaient réduit brutalement sa longueur de vie. On sait que Dieu avait décidé que les jours ne seraient que de 120 ans, et peut-être qu'il a utilisé cette rupture de protection pour accomplir ce jugement sur l'homme. Verset 16, il est dit que l'Éternel ferma la porte sur lui. Donc Noé est rentré dans l'arche et à un moment donné, la porte s'est fermée. Et c'est bien sûr un très beau type ou une très belle préfiguration du salut en Jésus-Christ. Pierre explique que Dieu n'est pas lent, il ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse. Il use de patience envers nous parce qu'il veut que tous soient sauvés, il veut que tous arrivent à la repentance. Et des fois on se dit, mais si j'étais Dieu, ça fait longtemps que j'aurais puni l'homme. En fait, c'est toujours la grâce de Dieu qui veut sauver l'homme. Et il arrive un moment où la grâce de Dieu s'arrête. Et on l'a, en étudiant l'Apocalypse qui est à l'autre bout, on en a parlé. À un moment donné, le temps de la grâce va se terminer. De même que pendant longtemps, Noé a prêché le message de l'amour de Dieu, du salut. Chaque fois qu'il plantait un clou, quelqu'un a dit que c'était comme il prêchait un message. Les gens ne connaissaient pas la pluie, n'avaient jamais vu un bateau. Et ils devaient dire, Noé, il est gentil, mais il est un peu fêlé, il est un peu fou. Et puis, la porte s'est refermée, il était trop tard, les gens ne pouvaient plus rentrer. Et de même, pour nous, l'accès à Jésus est encore présent. Nous pouvons être sauvés en Jésus-Christ, il n'y a que par lui qu'on peut être sauvé. Il n'y a pas d'autre nom donné parmi les hommes sous les cieux par lequel nous devons être sauvés que celui de Jésus-Christ. Et un jour, il sera trop tard. Et on doit avoir un sentiment de l'urgence de le dire à ceux qui nous entourent, de leur faire savoir qu'il n'y a qu'un chemin qui mène à la vie éternelle avec Dieu, et ce chemin, c'est le chemin, la vie, la vérité, la vie, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est dit encore, ce chapitre 11 parle beaucoup de la foi, et il dit, c'est par la foi que, de Hébreux 11, 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, il savait que Dieu allait répandre sa colère, saisi d'une pieuse crainte, construisit un arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Là encore, il a été sauvé parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui demandait, parce qu'il croyait à ce que Dieu lui indiquait, qu'il avait trouvé sa faveur et qu'il devait construire cette arche. Verset 22, il est dit que, de chapitre 7, il avait obéi en tout point tout ce qui était... Non, pardon, c'est... 8, 22. Non, j'ai plus le verset. Je vous laisserai le trouver. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Et ça, c'est la clé de la faveur de Dieu. Dieu nous donne sa grâce, mais il nous demande notre obéissance. Verset 5, d'accord. Voilà, Noé agit en tout point comme l'Éternel le lui avait ordonné. Donc bien sûr, les eaux sont montées, et le temps qu'elles redescendent, il s'est passé plus d'un an. On le sait en comparant les dates qui sont indiquées notamment au verset 11 du chapitre 7. Et puis le verset 13 du chapitre 8. Alors vous vous souvenez de l'épisode où il envoie un corbeau qui revient à plusieurs reprises, puis une colombe qui part et qui revient, et puis une colombe qui revient avec une feuille arrachée à un olivier, montrant que la terre avait ressurgi des eaux. Un auteur qui aime bien regarder les dates, dit qu'en fait la date indiquée au chapitre 7, verset 11, dans 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, ça correspond en fait à la résurrection. Il faudrait que je vous donne les détails, peut-être je les imprimerai. Ça correspond au jour de la résurrection de Jésus lui-même, qui est ressuscité le troisième jour après le jour du sabbat, le 14 du mois de Nissan, qui était la fête de la Pâque. Ça correspondait, ça, le mois de Nissan, c'était le premier mois du calendrier religieux, mais il y a un calendrier civil qui commence par le mois de Rosh Hashanah, et ça correspondait au septième mois, et en fait, plutôt le deuxième jour, le 17e jour du mois, ça correspond, on parle à partir de Pâques, c'est la résurrection de Christ. Et donc cet auteur, Chuck Missler, dit que c'est le recommencement, le renouvellement qui arrive avec ce déluge. De même, nous, c'est un renouvellement avec la résurrection de Jésus. Il est question ensuite de la fin du déluge. On est presque arrivé au terme de notre heure. Dieu promet, fait une alliance avec Noé de ne plus jamais utiliser le déluge comme destruction, mais qu'au contraire un signe de cette alliance c'est l'arc-en-ciel qui maintenant est souvent un signe utilisé par le Nouvel Âge. C'est un signe biblique, n'ayez pas honte de l'arc-en-ciel. C'est une beauté. Cet été on a fait un concert, on a eu de la pluie juste avant les concerts, le soleil s'est levé et là on a vu deux arc-en-ciel très très marqués. C'est toujours un rappel de l'amour de Dieu que lorsque vous voyez un arc-en-ciel, pensez à cette alliance qu'il avait fait avec Noé. Ensuite, on a au verset 10, on a la descendance de Noé par ses trois enfants, Sem, Cham et Japhet. Et on a en gros les peuplades, les fils de Japhet, c'est un peu les peuplades européennes. Les fils de Sem, ce sont bien sûr les Chamites ou les Chémites. C'est les peuples de l'Orient, du Moyen-Orient. Et puis Japhet, c'est le peuple noir, l'Afrique. Et je crois que le peuple asiatique vient aussi de Sem. Donc là, on peut, ce qu'on appelle la roue des nations, on peut faire à partir de Noé au milieu, avec ses trois fils, on peut voir les différentes peuplades. On a retrouvé lorsqu'on a parlé des prophéties de Daniel et d'Ézéchiel, il y a des noms qui reviennent, qui sont des noms de ses descendants. C'est comme ça qu'on peut dire, par exemple, Togarma, c'est l'Arménie, Gomer, c'est sans doute les peuples qui correspond à l'Allemagne actuellement ou la région. Mais ça, c'est qu'on appelle les nations, la roue des nations issues des fils de Noé. Je vous laisserai voir cela. Ensuite, il y a la fameuse tour de Babel, où l'homme qui devait se répartir à la surface de la terre par rébellion a voulu se construire une tour pour se faire une réputation. Faisons-nous un nom, verset 11, chapitre 4. Et là, Dieu a dû mélanger les langues pour empêcher la construction de cette tour qui était un symbole de l'orgueil et de la rébellion de l'homme contre Dieu. Et puis on voit ensuite la continuation de la lignée de Sem jusqu'à un certain Terah qui habitait dans Ur des Chaldéens, qui allait donner naissance par Nahor, plutôt par Terah allait donner naissance à Abraham. Et c'est ce qu'on va voir à partir du chapitre 12, comment Dieu choisit un homme, Abraham, pour se donner une descendance et pouvoir arriver dans la race humaine avec la promesse du chapitre 12, d'une descendance qui bénirait toutes les familles de la terre et qui est Jésus-Christ. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Alors vous voyez que ça va assez vite. Je vous encourage à lire pendant la semaine, ne serait-ce que peut-être pas en détail, mais au moins voir l'enchaînement des différents épisodes. Et puis s'il y a des passages qui vous ont déjà posé des problèmes, ou n'hésitez pas à poser les questions, parce qu'en principe les questions que vous vous posez, dites-vous bien que d'autres se les posent, que même peut-être moi j'ai pas de réponse. Ce ne serait pas étonnant, je dis même peut-être moi. Mais je veux dire, les seules mauvaises questions sont celles qu'on ne pose pas. Amen. Voilà, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des questions? On peut continuer avec des questions.